Chapitre 30. Le labyrinthe de la vie. Rien n'est plus tragique que de rencontrer un individu à bout de souffle, perdu dans le labyrinthe de la vie. Martin Luther King. Lundi, 13 septembre, 15e arrondissement de Paris, 9h du matin. Nous descendîmes à la station Ballard, terminus de la ligne 8 du métro. En ce début d'automne parisien, la température était douce et il flottait dans l'air comme un parfum de rentrée des classes. L'hôpital européen Marie Curie était un immense bâtiment situé au bord de la Seine, en lisière du parc André Citroën. Sa façade principale, tout habillée de vert, épousait la courbe de la rue et offrait un effet miroir qui reflétait les arbres environnants. D'après ce que j'avais pu en lire sur la brochure, il regroupait les services d'anciens hôpitaux de la capitale et passait pour l'un des plus performants d'Europe, en particulier pour son pôle cardiovasculaire au sein duquel officiait le professeur Clouzot. Après nous être trompés 3 fois d'entrée et perdus dans les méandres du grand patio central, un employé nous orienta vers une batterie d'ascenseurs qui nous conduisit à l'avant-dernier étage. Malgré notre rendez-vous, nous fûmes obligés d'attendre le médecin pendant 3 quarts d'heure. D'après sa secrétaire, Corinne, le professeur Clouzot, qui habitait le bâtiment où se trouvaient ses malades, rentrait ce matin même de New York où il enseignait 2 fois par mois à la prestigieuse Harvard Medical School. Sous la surveillance de Corinne, nous patientâmes dans un magnifique bureau décoré d'un mobilier alternant bois et métal et offrant une vue sublime sur la Seine et les toits de Paris. En se plaçant devant le mur de verre, on distinguait les péniches qui glissaient paresseusement sur le fleuve, le pont Mirabeau et la réplique de la statue de la Liberté à l'extrémité de l'île aux Cygnes. L'homme qui déboula dans la pièce ressemblait davantage à l'inspecteur Colombo qu'à un éminent professeur de médecine. La chevelure en broussaille, la mine pâteuse et mal rasée, il portait un imperméable froissé, jeté sur ses épaules comme une cape. Sa chemise écossaise s'échappait de son pull verdâtre et tombait sur un pantalon en velours côtelé, aux taches plus que douteuses. Si j'avais croisé ce type dans la rue, j'aurais peut-être eu envie de lui donner une pièce. Difficile de croire qu'en plus de son service à l'hôpital, il dirigeait une équipe de médecins et d'ingénieurs qui, depuis 15 ans, travaillait à la conception d'un cœur artificiel autonome. Il marmonna une vague formule pour s'excuser de son retard, troqua son trench coat contre une blouse jaunâtre et, sans doute sous l'effet du décalage horaire, s'affala dans son fauteuil. J'avais lu quelque part que, lors de notre première rencontre avec un nouveau visage, notre cerveau décidait en 1/10 de seconde si cette personne était fiable. Un processus si rapide que nos capacités de raisonnement n'avaient tout simplement pas le temps d'influer sur cette première réaction instinctive. Et ce matin-là, malgré son aspect négligé, c'est bien une impression de confiance qui s'imprima dans mon esprit par rapport au professeur Clouzot. Billy non plus ne se laissa pas déstabiliser par son allure et lui détailla ses symptômes. Perte de connaissance, grande fatigue, pâleur, essoufflement au moindre effort, nausée, fièvre, perte de poids et brûlure d'estomac. Tandis qu'il prenait acte de ces informations en murmurant des « mm-hmm » presque inaudibles, je lui tendis le dossier médical que j'avais constitué grâce aux analyses de Mortimer Philipson. Il chaussa une paire de lunettes à double foyer, comme on en voyait dans les années 1970, et parcourut les documents avec une moue dubitative. Mais la flamme de son regard qui perçait derrière ses lunettes rondes trahissait une intelligence vive et en alerte. « Vous allez me refaire des examens », trancha-t-il en balançant d'autorité la chemise cartonnée dans sa corbeille. Ces analyses faites dans le dispensaire d'un hôtel exotique et cette histoire de fille de papier, d'encre et de cellulose, rien de tout cela ne tient debout.
« Et mes évanouissements alors ?» s'énerva Billy. « Et mes cheveux ?»
Il la coupa sans ménagement. « Pour moi, vos syncopes à répétition sont liées à une diminution brusque du débit sanguin cérébral. Elles trouvent donc forcément leur origine dans une anomalie cardiaque ou vasculaire. Ça tombe bien, c'est justement ma spécialité et celle du service que je dirige. »
Il griffonna sur une ordonnance une liste d'examens à passer dans la journée et proposa de nous revoir le soir même.
Rome, aéroport Fiumicino. Le Boeing 767 en provenance de San Francisco stationnait sur son aire de parcage. Les passagers avaient débarqué depuis plus d'une demi-heure et les agents d'entretien s'activaient pour nettoyer l'intérieur de l'avion. Mike Portoy, le pilote de ligne,
mit la touche finale à son rapport d'après-vol et ferma son ordinateur portable.
Plein le dos de cette paperasse,
pensa-t-il en bâillant. Il avait un peu bâclé son débriefing, mais ce vol de 15 heures l'avait lessivé. Il regarda l'écran de son téléphone. Sa femme lui avait laissé un message tendre et attentionné. Pour éviter de l'appeler, il envoya l'un des textos copiés-collés qu'il gardait en réserve. Aujourd'hui, il avait bien mieux à faire que de papoter avec Bobonne. Ce soir, il fallait absolument qu'il croise Francesca. Chaque fois qu'il passait par Rome, il s'arrangeait pour tenter sa chance auprès de la belle hôtesse qui travaillait au bureau des objets trouvés. 20 ans, fraîche, sexy, appétissante avec ses formes généreuses, Francesca lui faisait un effet dingue. Jusqu'à présent, elle avait toujours refusé ses avances, mais cela allait changer, il le sentait. Mike quitta son cockpit. Il se recoiffa et boutonna sa veste. Ne jamais sous-estimer le prestige de l'uniforme. Mais avant de quitter l'avion, il fallait qu'il trouve un prétexte pour aborder la jeune Italienne. Il avisa l'équipe de nettoyage qui, rapide et efficace, s'était réparti les tâches. Sur le premier chariot, au milieu des magazines et des mouchoirs en papier usagé, il repéra un beau livre drapé de cuir bleu nuit. Il s'approcha, prit l'ouvrage en main, regarda la couverture décorée d'étoiles où le nom de l'auteur et le titre du roman se détachaient en lettres dorées. Tom Boyd, La trilogie des anges, tome 2.
Jamais entendu parler, mais ça fera l'affaire. Le voilà, mon hameçon.
Vous ne pouvez pas emporter ce livre, monsieur.
Il se retourna, pris en faute. Qui osait lui parler ainsi? C'était l'une des femmes de ménage, une blague plutôt jolie. Le badge obligatoire à son cou indiquait son prénom, Kayla, et le bandana qui retenait ses cheveux portait l'étoile blanche sur fond bleu du drapeau somalien. Il la toisa avec mépris.
« Je me charge de ça, » décida-t-il en désignant l'ouvrage. « Je dois justement passer au bureau des objets trouvés. »
« Je suis obligé d'en référer à mon chef d'équipe, monsieur. »«
Référez-en à Dieu le Père, si ça vous fait plaisir, » se moqua-t-il en haussant les épaules.
Il garda le livre dans la main et quitta l'appareil. Ce soir, Francesca dormirait dans son lit. Via Mario De Bernardi. Dans le taxi qui la conduisait à son hôtel, Bonnie pensa soudain à allumer son téléphone portable. Il débordait de messages. Son père d'abord, qui se faisait du souci, puis un texto loufoque de Yuchan pour la prévenir que la police était à ses trousses et surtout, une multitude d'appels d'un certain Milo qui manifestait son désir de lui racheter le roman de Tom Boyd qu'elle avait acquis sur Internet.
Quelle histoire de fou!
Pris d'un mauvais pressentiment, elle fouilla dans sa besace pour s'apercevoir que le livre n'était plus là.
Je l'ai oublié dans l'avion!
Le taxi allait s'engager sur l'autoroute lorsque Bonnie poussa un cri d'exclamation.
Stop, s'il vous plaît! Pouvez-vous faire demi-tour?
Hôpital européen Marie Curie, quai de Seine, Paris.
Détendez-vous, mademoiselle. L'examen est totalement indolore.
Billy était couché, torse nu, allongé sur le côté gauche. À sa droite, le cardiologue colla 3 électrodes sur sa poitrine avant de lui tartiner une grosse noisette de gel sur le torse.
Nous allons vous faire une échographie du cœur pour rechercher une éventuelle tumeur et préciser sa localisation.
Il joignit le geste à la parole en appliquant la sonde suivant différentes positions, entre les côtes de Billy et à proximité de son sternum, réalisant chaque fois plusieurs clichés. Sur l'écran, je distinguais nettement le battement cardiaque de la jeune femme qui s'était emballée sous le coup de la peur. Je voyais aussi l'air inquiet du médecin, dont le visage se fermait de plus en plus au fur et à mesure que l'examen se prolongeait. C'est grave ? Ne puis-je m'empêcher de demander.
Le professeur Clouseau vous commentera les résultats, me répondit-il un peu froidement.
Mais il ajouta de sa propre initiative
« Je crois que nous allons compléter l'échocardiographie par une IRM. »
Rome, aéroport Fiumicino.
« Francesca n'est pas là ?»
demanda Mike Portoy en poussant la porte du bureau des objets trouvés. Le pilote de ligne avait du mal à cacher sa déception. Derrière le comptoir, la remplaçante leva le nez de son magazine pour lui redonner quelque espoir.
Elle prend sa pause au Da Vinci's.
Mike s'en alla sans dire merci, ni prendre la peine de laisser le livre qu'il avait récupéré dans l'avion. Situé dans un recoin du terminal 1, le Da Vinci's était une petite oasis au cœur de l'aéroport. Dans un décor de colonnes de marbre rose, L'établissement avait des allures de café informel, doté de piliers et de voûtes recouverts de lierre grimpant. Le long d'un immense comptoir en forme de U, les voyageurs se bousculaient pour avaler des espressos serrés, tout en dégustant des pâtisseries maison.
Hey, « Hé, Francesca !»
lança-t-il en l'apercevant. Il la trouvait plus belle chaque fois. Elle était en train de bavarder avec un jeune employé, un gugus vêtu d'un tablier de torréfacteur qu'on payait pour préparer des cafés avec cérémonie, depuis le grain vert jusqu'au nectar servi dans la tasse. Mike s'approcha, posa le livre sur le comptoir et essaya de s'immiscer dans la conversation, imposant sa langue, l'américain, et son sujet de conversation, lui-même. Mais la belle italienne se pâmait devant son jeune compagnon, buvait ses paroles en battant des paupières. Il avait un sourire enjôleur, des yeux rieurs et des bouclettes brunes. Gonflé à la testostérone, Mike regarda l'ange romain avec défi, puis il invita Francesca à aller dîner avec lui. Il connaissait une petite trattoria près de Campo dei Fiori qui faisait des antipasti délicieux et...
« Ce soir, je sors avec Gianluca », répondit-elle en secouant la tête.
« Peut-être demain alors. Je reste 2 jours à Rome. »
« Je te remercie, mais non »,
déclina-t-elle avant de partir dans un fou rire avec son complice. Mike blêmit. Quelque chose lui échappait. Comment cette petite pétasse pouvait-elle lui préférer ce minable ? Lui avait fait 8 ans d'études pour accéder à un métier auréolé de prestige qui fascinait les gens. L'autre avait un boulot de merde et un temps partiel flexible. Lui conquérait le ciel, l'autre était payé 790 € net en intérim. Pour ne pas perdre complètement la face, Mike se força à commander quelque chose. Les deux tourtereaux avaient depuis longtemps repris leur conversation en italien. L'odeur envoûtante du café lui monta à la tête. Il avala son lungo d'un trait et se brûla la langue.
« Tant pis, je vais me payer une pute du côté de San Lorenzo »,
pensa-t-il dépité en sachant parfaitement que ça n'effacerait pas le rire de Francesca. Il descendit de son tabouret et quitta le café la queue entre les jambes en oubliant sur le comptoir le livre à la reliure en cuir et à la couverture gothique. Aéroport Fiumicino, bureau des objets perdus, 5 minutes plus tard.
« Désolé, mademoiselle, personne ne nous a rapporté votre roman »,
annonça Francesca à Bonnie.
« Vous êtes certaine ?» demanda l'adolescente. « C'était un livre très important pour moi. Il contenait également des photos et... Écoutez, vous allez remplir une fiche en décrivant le plus précisément possible l'objet égaré, ainsi que votre numéro de vol, et si quelqu'un nous le rapporte, nous vous téléphonerons immédiatement.
« D'accord », répondit tristement Bonnie. Elle s'appliqua à compléter le document, mais au fond d'elle-même, une petite voix lui disait qu'elle ne reverrait pas l'étrange livre inachevé de Tom Boyd et qu'elle ne goûterait jamais le soufflé au chocolat de Madame Kaufmann. Hôpital européen Marie Curie, quai de Seine, Paris, 19h15.
« Corinne, les résultats de Mademoiselle Donnelly !»
hurla Jean-Baptiste Clouzot en ouvrant la porte de son bureau. Il surprit mon regard étonné, posé sur l'interphone de son bureau.
Jamais compris comment fonctionnait ce machin. Trop de touches,
marmonna-t-il en se grattant la tête. Apparemment, il en allait de même pour son BlackBerry dernier modèle, qui clignotait et vibrait toutes les 2 minutes, sans qu'il y accorde la moindre importance. Il avait enchaîné les opérations toute la journée, et semblait encore moins frais que le matin. Son visage défait était creusé de cernes, et sa barbe de rue donnait l'impression d'avoir poussé d'un demi-centimètre en quelques heures. La nuit tombait sur Paris, plongeant la pièce dans la pénombre. Mais Clouzot ne prit pas la peine d'allumer. Il se contenta d'appuyer sur le bouton central d'une télécommande qui activa un immense écran plat accroché au mur, sur lequel, à la manière d'un diaporama, défila le compte-rendu des examens de Billy. Le médecin s'approcha du panneau lumineux pour commenter le premier document.
L'analyse sanguine a confirmé la diminution du taux des plaquettes, ce qui justifie votre état anémique,
expliqua-t-il en regardant la jeune femme à travers le prisme de ses étranges lunettes. Il pressa une touche pour passer à l'image suivante.
Quant à l'échocardiographie, elle a mis en évidence la présence de plusieurs myxomes cardiaques.
Des myxomes ? S'inquiéta Billy.
Ce sont des tumeurs situées dans le cœur,
précisa abruptement Clouzot. Il se rapprocha encore de l'écran et pointa avec sa télécommande un détail de l'image médicale qui représentait une masse sombre en forme de petite boule.
« Votre première tumeur se situe dans l'oreillette droite.
Elle a une forme classique, avec un pédicule court de consistance gélatineuse. À première vue, elle me semble relativement bénigne.
Il laissa passer quelques secondes avant d'enchaîner sur un autre cliché.
La deuxième tumeur est plus inquiétante,
admit-il.
Elle a une taille inhabituelle d'environ 10 cm et une forme fibreuse, ferme et filandreuse. Elle s'est enclavée au niveau de l'orifice mitral et sa position gêne l'arrivée du sang riche en oxygène dans la partie gauche du cœur. C'est ce qui explique vos essoufflements, votre pâleur et vos syncopes, puisque l'organisme n'est pas suffisamment irrigué.
À mon tour, je m'approchai du cliché. La tumeur avait la forme d'une grappe de raisin accrochée à la cavité du cœur par des filaments. Je ne pus m'empêcher de penser aux racines et aux fibres du bois qui transportent la sève, comme si un arbre était en train de pousser dans le cœur de Billy.
« Je vais mourir, n'est-ce pas ?»
demanda-t-elle d'une voix tremblante.
« Vu le volume du myxome, si on n'enlève pas au plus vite, vous avez effectivement de gros risques d'embolie artérielle et de mort subite, »
concéda Clouseau. Il éteignit l'écran, ralluma les lumières et regagna son fauteuil.
« C'est un traitement chirurgical à cœur ouvert. Il y a des risques, bien sûr, mais en l'état actuel des choses, le plus grand danger serait de ne rien faire.
« Quand pouvez-vous m'opérer ?»
demanda-t-elle. De sa voix de stentor, le médecin appela Corinne, sa secrétaire, pour qu'elle lui apporte son agenda. Celui-ci était déjà bien rempli, avec des opérations et des interventions planifiées des mois à l'avance. Je craignais qu'il ne nous orientât vers l'un de ses confrères, mais... au nom de son amitié avec Aurore, il accepta de remettre un autre rendez-vous pour opérer Billy 15 jours plus tard. Décidément, ce type me plaisait bien. Mail de Bonnie Delamico à Milo Lombardo, 13 septembre 2009. Objet, la trilogie des anges, tome 2. Cher monsieur, j'ai bien trouvé les nombreux messages que vous avez laissés sur mon téléphone pour m'indiquer votre volonté de me racheter mon exemplaire du livre de Tom Boyd dont vous prétendez être l'agent et ami. Outre que ce livre n'est pas à vendre, je vous informe que je l'ai malheureusement égaré lors d'un vol entre San Francisco et Rome, et qu'à l'heure actuelle, il n'a toujours pas été restitué au bureau des objets trouvés de l'aéroport de Fiumicino. Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie d'agréer mes sincères salutations. Bonnie Delamico. Rome, aéroport Fiumicino, Café Da Vinci's. Les premiers passagers du vol Fly Italia en provenance de Berlin commençaient à débarquer. Parmi eux, le célèbre peintre et designer Luca Bartoletti, qui revenait d'un court séjour dans la capitale allemande. 3 jours qu'il avait passé à répondre à des interviews à l'occasion d'une rétrospective de son œuvre organisée par le Hamburger Bahnhof, le musée d'art contemporain de la ville. Voir ses toiles accrochées à côté de celles d'Andy Warhol et de Richard Lang constituait une sorte de consécration. La reconnaissance du travail de toute une vie. Luca ne perdit pas son temps à attendre sa valise devant le tapis roulant circulaire. Il détestait s'encombrer et voyageait toujours sans bagages. Dans l'avion, il avait à peine touché au plateau repas, constitué d'une salade caoutchouteuse, d'une immonde omelette aux pâtes sous cellophane et d'une tarte aux poires dure comme du plâtre. Avant de récupérer sa voiture, il s'arrêta pour manger quelque chose au Da Vinci's. Le café n'allait pas tarder à fermer, mais le patron accepta de prendre une dernière commande. Luca opta pour un cappuccino et un sandwich chaud à la mozzarella, à la tomate et au jambon italien. Il s'installa au comptoir pour terminer la lecture d'un article de La Repubblica qu'il avait commencé dans l'avion. Lorsqu'il posa son journal pour prendre une gorgée de café, il aperçut le livre en cuir bleu, oublié un peu plus tôt par le pilote de ligne. Luca était un adepte du book crossing. Il achetait énormément de livres, mais n'en conservait aucun, préférant les abandonner dans des lieux publics pour en faire profiter les autres. D'abord, il crut que le roman avait été laissé là volontairement, mais aucune étiquette n'était collée sur la couverture pour accréditer cette idée. Luca feuilleta le roman en croquant dans son sandwich. Peu porté sur la littérature populaire, il n'avait jamais entendu parler de Tom Boyd, mais il fut déconcerté en découvrant que le roman était incomplet et qu'un de ses lecteurs s'était servi des pages manquantes comme d'un album photo. Il termina son repas et quitta le café avec sa découverte sous le bras. Dans le parking souterrain, il retrouva la vieille déesse cabriolet couleur bordeaux qu'il avait achetée lors d'une récente vente aux enchères. Il posa le livre sur le siège passager et mit le cap sur le sud-ouest de la ville. Luca habitait derrière la place Santa Maria, au dernier étage d'un immeuble ocre, dans le quartier pittoresque et coloré du Trastevere, un grand appartement qu'il avait transformé en loft et où il avait installé son atelier. Dès qu'il pénétra dans son antre, une lumière crue, celle dont il avait besoin pour la réalisation de ses tableaux, inonda la pièce. Luca la tamisa en jouant sur l'interrupteur. Le local ne donnait pas l'impression d'être habité tant il était dépouillé. Il s'organisait autour d'une immense cheminée centrale, entourée de vitres circulaires. Il y avait des tréteaux un peu partout, des pinceaux de toute taille, des rouleaux de peintre en bâtiment, des racloirs de tanneur, des couteaux d'apiculteur et des pots de peinture par dizaines. Mais il n'y avait ni lit d'enfant, ni bibliothèque, ni canapé, ni télévision. Luca examina ses dernières toiles. Elles étaient toutes monochromes, des variations autour de la couleur blanche avec des entailles, des sillons, des reliefs et des coups de brosse qui créaient des effets de lumière originaux. Des œuvres très prisées qui atteignaient des cotes importantes auprès des collectionneurs. Mais Luca n'était pas dupe. Il savait que le succès et la reconnaissance critique ne reflétaient pas forcément le talent. L'époque était tellement saturée de consommation, polluée par le bruit, la vitesse et les objets, que les gens avaient l'impression de gagner une sorte de purification lorsqu'ils achetaient ces tableaux. Le peintre retira sa veste et commença à feuilleter avec émotion les pages ornées des photos de la vie d'Ethel Kaufman. Depuis longtemps, toute fantaisie avait disparu de sa vie. Pourtant, ce soir, il avait une furieuse envie de souffler au chocolat.